1. Docteur Ted Hildebrandt au thé Histoire, Littérature et Théologie.
Conférence 14. Symbole copyright 2020, Docteur Ted Hildebrandt. Il s'agit du Docteur Ted Hildebrandt et de son histoire, de sa littérature et de son Ancien Testament. Cours de théologie, leçon numéro 14 sur les sacrifices et les fêtes du Lévitique et du début de la discussion sur le livre des Nombres. Revue barre oblique aperçu du Lévitique 0, 003, 53. Commençons par un mot de prière, puis nous passerons au cours d'aujourd'hui. Père, nous te remercions pour cette journée. Nous vous remercions pour cette belle journée d'automne en Nouvelle-Angleterre. Et nous réalisons que les cieux déclarent la gloire de Dieu. Ô Seigneur, notre Seigneur, comment majestueux est ton nom sur toute la terre. Tu nous as donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des langues au goût et des mains pour manipuler votre création. Nous vous remercions simplement pour votre bonté et ta grandeur. Merci pour Jésus-Christ et pour le grand sacrifice qu'il a fait et pour tous les sacrifices de l'Ancien Testament qui étaient des précurseurs pointant vers le Christ, le grand sacrifice pour tous les temps. Nous te remercions donc de nous avoir suffisamment aimés pour envoyer ton Fils. Nous prions pour que vous puissiez nous aider, même aujourd'hui, à marcher sur ses traces. Dans son précieux nom que nous prions, Amen. Revenons là où nous en étions la dernière fois. Nous allons finir le Lévitique aujourd'hui et abordons le livre des Nombres, et nous avons donc pas mal de détails sur lesquels travailler. Dans le Lévitique. Nous allons faire deux choses aujourd'hui dans le Lévitique. L'un sera le sacrifice. Je vais vous apprendre à être prêtres et à accomplir des sacrifices sacerdotaux. Ensuite, après avoir fait le genre de matériel sacerdotal très lourd, nous parlerons sur les fêtes d'Israël. Les fêtes d'Israël étaient des moments de célébration. Alors commençons avec les sacrifices. L'une des questions qui se pose lorsque l'on aborde le livre du Lévitique est la suivante. Il y a tous ces sacrifices. Vous vous demandez, pourquoi y a-t-il tant de types différents de sacrifices? Je veux donc expliquer les différents types de sacrifices, en les intégrant dans un contexte des différents aspects du péché. Je veux donc aborder ces différents aspects du péché qui survient. Normalement, quand les gens pensent au péché, ils pensent que c'est une sorte de phénomène unitaire. Concept plat. En d'autres termes, le péché est un péché, et c'est juste que vous avez fait quelque chose de mal et c'est tout. Machine translated by Google. 2. Mais en réalité, le péché est un complexe de choses, et c'est pourquoi nous voulons examiner cela. Différents aspects du péché, colère barre oblique propitiation 3, 5, 4, 5, 19. La première chose que fait le péché, et nous le voyons dans le livre des Nombres que nous allons. Ce que je verrai plus tard, c'est que lorsque les gens pêchent, Dieu répond avec colère. Dans le livre de Nombres, rappelez-vous, lorsqu'ils errent dans le désert, Dieu se met en colère comme un réponse au péché. Comment gérer la colère? Il y a la propitiation. Que est-ce que la propitiation? Certains d'entre vous savent ce qu'est la propitiation. Dans mon cas, j'ai fait quelque chose que je connaissais mon père, j'allais être très en colère, alors j'ai volontairement, tout seul, tondu la pelouse sans lui demandant pour qu'en rentrant chez lui, il voit que la pelouse est étendue et qu'il soit favorablement disposé. Je rentre à la maison, ma femme est en colère contre moi pour quelque chose, alors j'ai fait quelque chose qui j'avais tort, vais-je acheter des fleurs? Est-ce que les fleurs le recouvrent en quelque sorte? Parfois oui. Peu. Les fleurs se retournent contre elles. Si les fleurs sont condescendantes, alors les fleurs ne fonctionnent pas. Donc tu as. Soyez prudent avec les fleurs, elles peuvent aller dans les deux sens. Ce que je dis, c'est que tu fais quelque chose. C'est bien d'essayer d'apaiser leur colère. La propitiation a donc à voir avec la colère de Dieu qui doit être apaisée ou calmée. Encore une fois, nous parlerons davantage de la colère. Notre culture ne gère pas bien ou ne comprend pas du tout la colère. Aspect du péché, pollution / purification 5, 206, 04. Le péché provoque la pollution. Il y a une nature souillante du péché qui cause la pollution. À voir. L'un d'entre vous a déjà été dans un environnement si pécheur qu'il s'est réellement senti physiquement sale. J'ai parfois été dans de tels environnements où l'on se sent réellement sale. C'est idée de pollution, vous ressentez la pollution, la saleté du péché. Il faut donc purification. Dans la plupart des cas, la purification dans les Écritures se fera avec quelle substance? Eau. Ils utiliseront de l'eau pour se purifier. Donc, à cause de la pollution du péché, il faut purification / nettoyage. Aspect du péché, culpabilité / honte / expiation 6, 05, 7, 11. Maintenant, il y a la culpabilité et la honte. L'un d'entre vous a-t-il déjà fait quelque chose de mal et nous avions cette tradition où, en gros, vous courez dans votre chambre, vous plongez dans ton lit, tu tires la couverture et l'oreiller sur ta tête et tu espères ne pas avoir attrapé. C'est l'idée d'avoir besoin d'une couverture pour la honte et la culpabilité. Au fait, est-ce que nous Machine Translated by Google. 3. Vivre dans une culture sans honte. Il n'y a rien qui nous fasse honte, mais à cette époque, la honte était une chose vraiment importante. Que fais-tu de honte? Vous en faites l'expiation. Que est-ce que expiation? Expiation, signifie que vous couvrez la honte. Alors Adam et Ève pêchent dans le jardin. Ressentent-ils de la honte? Alors que font-ils d'eux-mêmes? Ils se couvrent. Ils se cachent dans les buissons. Il y a un besoin de couverture. Le fait de se couvrir est appelé expiation. Il est nécessaire de cacher la honte et la culpabilité. Aspect du péché, dommage / réparation 7, 1, 2, 9, 58. Le péché fait-il réellement du mal aux autres? Quelqu'un vole quelque chose, le fait-il réellement nuire à quelqu'un d'autre? Voler quelque chose nuit en fait à quelqu'un d'autre. Donc, réparation, lorsque vous volez quelque chose et que vous vous faites prendre, vous devez le rembourser. Je dois le rembourser par multiple de 4. Vous devez rembourser 4 fois ce que vous avez pris. C'est donc ça la réparation. Au fait, notre culture traite-t-elle très bien la réparation? 1. La personne commet un crime. Doit-il réparer ou les jette-t-on simplement en prison? Nous les jetons en prison. Une personne viole et endommage une autre personne, mais le fait-elle jamais? Doit-il réparer la personne qui l'a blessé? Surtout pas, dans notre culture. La personne doit faire face à la personne dont elle a été victime, elle doit réparer. Dans notre culture, nous les enfermons et la victime finit par devoir se débrouiller seule. Donc, c'est l'idée de réparation. Le mal est fait, le péché fait du mal à une personne. La réparation, c'est que vous devez réellement essayer de réparer ce que vous avez fait. Ainsi, par exemple, quelqu'un fait quelque chose de mal dans notre culture. L'un de vous a-t-il des gars ont déjà vu où ils doivent faire autant d'heures de travaux d'intérêt général. En d'autres termes, ils ont violé la communauté, alors le juge dit, vous devez faire 40 heures de prison. Service public. Y a-t-il quelque chose de bien là-dedans? La personne peut effectivement travailler pour rembourser les dégâts qui l'ont causé. Voilà donc la notion de réparation. Je souhaite à notre culture avoir davantage cette notion de réparation. Je pense que ça aiderait vraiment beaucoup de gens qui ont violé autrui, s'ils devaient effectivement rembourser les dommages. Question de l'étudiant. La propitiation est une réponse à la colère et la tentative d'apaiser le colère de Dieu. La propitiation est donc une sorte de chose d'apaisement. Dans mon cas, ce serait le cas, je J'achète des fleurs pour ma femme et je lui demande de sortir dîner. J'essaie de me rattraper pour. Machine translated by Google. 4. Quelque chose que j'ai fait de mal. J'essaie donc d'apaiser sa colère que j'attends. Réparation. Ce serait quel est ce truc très spécial et je viens de le casser. La réparation serait quoi? Je lui en procurerai un nouveau en espérant qu'elle ne le saura peut-être même pas. Mais vous savez. Ce que je dis, l'apaisement serait quoi? Je l'ai cassé, elle va être en colère, et je. Essayez d'apaiser sa colère. La réparation, c'est, et, je vais t'en procurer une nouvelle. Ce serait donc. La différence entre les deux. Bon point. Aspect du péché, communion rompue / confession 9, 5 9 1 2, 0 0. La communion est rompue. Le péché brise la communion entre les gens. Une personne qui ment sur une autre personne, des commérages sur une autre personne, rompent la communion avec les gens. Donc, la communauté est endommagée par le péché. Comment restaurer la communauté? C'est fait à travers. Confession. À propos, vous souvenez-vous que dans le Nouveau Testament, il est dit que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Les péchés doivent être avoués dans la communauté. Ensuite, il y a la restauration. L'un d'entre vous athées, il était dans une église où il y a eu de très gros péchés dans l'église, et l'église se rassemble. La personne confesse son péché, et l'église se rassemble autour de cette personne et restaure eux. C'est le processus de restauration. Ce sont des processus vraiment importants, la confession du péché et de la restauration. Il y a donc tous ces aspects du péché. Maintenant, y aura-t-il différents aspects des sacrifices qui traitent de ces choses? Les sacrifices seront donc mis en place pour travailler avec certains de ces concepts ici. C'est ainsi que nous faisons nos sacrifices. Tout d'abord, il y a l'importance de 100. Hébreux 9.22 dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission du péché. En fin de compte, quel sang serait versé pour la rémission du péché? Le sang de Jésus. Alors Jésus meurt. Le christianisme, dans un sens, est-il une religion sanglante? C'est tout à fait le cas. C'est à travers le sang de Christ que nous sommes guéris, nous sommes purifiés. Au fait, vous comprenez l'ironie. Par le sang du Christ, nous sommes purifiés. Le sang est-il généralement un agent nettoyant? Habituellement c'est le coloration du sang, mais ici le sang est utilisé pour le nettoyage. Sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon des péchés, dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les Juifs étaient pas autorisés à boire du sang. Ils ont dû drainer le sang de l'animal avant de manger la viande. Le sang était donc spécialement sanctionné dans l'Ancien Testament, dans le livre. Machine translated by Google. 5. Du Lévitique ici, ils n'ont pas le droit de manger du sang. 5 types de sacrifices, les Ralacoste Sentier 12, 01 3, 24. Maintenant, à quoi ressemblaient les sacrifices? Je veux passer, en gros, par environ 5 heures. De ces sacrifices, qui en sont les principaux types? 5 types différents de sacrifices et ceux-ci proviennent des premiers chapitres du livre du Lévitique. Notre premier sacrifice est tout brûlé. Offrir celle-ci est vraiment complexe. Que est ce qui est brûlé dans tout l'Holocauste? Le tout est brûlé. Donc tout ça brûle, et c'est pour ça que c'est appelé l'Holocauste entier. Et ce que ce sera le sacrifice le plus coûteux? Oui. Quand le sacrifice a été offert, il était administré le soir et le matin. Donc dans le matin, il faisait un holocauste entier et le soir, il faisait un holocauste entier. Offre. L'animal tout entier serait brûlé. C'est le plus cher des sacrifices. La chose est totalement dédiée à Dieu puisque l'animal tout entier est brûlé totalement dédié à Dieu. Offrande pour le péché /purification 13, 2, 5, 1, 6, 18. Maintenant, un autre type d'offrande qui apparaît dans Lévitique, chapitre 4, est ce qu'on appelle le péché ou l'offrande de purification. Les différentes traductions de votre Bible traduiront ces offrandes différemment, mais c'est vraiment la même chose, le péché et la purification. Offre. Dans cette offre, le statut de la personne compte pour quelque chose. Alors si vous êtes un prêtre, tu devras offrir un bœuf ou un gros animal. Si vous êtes un leader communautaire, vous offrir quelque chose de plus. Si vous êtes une personne ordinaire, vous offrez un mouton ou une chèvre. Donc si tu es prêtre, tu dois offrir bien plus. Si vous êtes un roturier, vous offrez simplement un mouton ou une chèvre pour vous-même. Ce qui est très intéressant avec ce sacrifice, c'est que si tu es pauvre, tu peux offrir deux tourterelles. Maintenant, cela m'amène au Nouveau Testament. Pensez au livre du Lévitique. Marie a Jésus pour fils. Elle donne naissance à Jésus. Marie est impure. Une femme après l'accouchement est impure. 33 ou 66 jours. Après elle, la période d'impureté est terminée, doit-elle venir offrir une offrande de purification? Oui. Quand Joseph et Marie viennent se purifier, qu'offre Marie dans le Nouveau Testament? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Deux tourterelles? Que est-ce que cela nous dit? Leur statut dans cette culture. Jésus a-t-il été élevé dans une famille de classe moyenne ou Jésus a-t-il été élevé? Machine translated by Google. 6. Dans une famille pauvre. Deux tourterelles nous disent que Jésus n'était pas riche. Vous dites, eh bien, les charpentiers. Faites de bons salaires syndicaux. C'est juste à Boston. Jésus a grandi dans une famille pauvre. Marie offre deux tourterelles. Cela nous dit qu'il ne s'agissait pas du tout de personnes de haut statut. Et probablement plutôt l'inverse. Chaque fois qu'une purification est nécessaire, ils offrent ce genre de sacrifice. L'autre chose qui est importante à propos de celui-ci, c'est que le prêtre a pu manger un peu de ce. Ils agitaient certaines parties de l'animal devant le Seigneur et eux-mêmes j'aurais pu en manger un peu. À propos, dans ces sacrifices, Dieu pourvoyait il à ses prêtrises. Le sacerdoce tirait-il réellement de la nourriture de ses sacrifices? Oui. Alors, Dieu prendre soin du sacerdoce parce que les prêtres n'auront pas beaucoup de terre. Les prêtres n'avaient pas de ferme ni d'héritage foncier. Ils ont eu des villes lévitiques mais ils ne l'ont pas fait. Une grande partie de l'agriculture comme les autres. Alors, quand ils apportaient les sacrifices, les prêtres aurait pu manger une partie des sacrifices. Offrande de réparation 16, 1, 9, 1, 8, 21. Maintenant, le prochain sacrifice est traduit de différentes manières dans différentes traductions, l'offre de réparation. J'aime mieux cela, l'appelant l'offre de réparation, mais presque non. La traduction le traduit comme ça. Quand vous voyez une offre de réparation, quel est le but de cette offrande? Réparation. Avant d'offrir celui-ci, supposons que vous ayez volé celui de quelqu'un. Mouton ou chèvre. Avant de proposer celui-ci, vous devez rembourser cette personne 4 fois. Ce que tu as volé. Il faut donc réparer avant d'offrir celui-ci pour certains. Violation. Il est également traduit par « offrande pour violation de propriété » ou « offrande de culpabilité ». Ce sont donc 3 noms généralement traduits par l'un d'eux. J'aime la « réparation » parce que on dit plus sur la fonction réelle de cette offre. C'est donc pour la réparation, pour rembourser. Ces deux réparations et purifications se font presque exactement de la même manière. En d'autres termes, une partie de l'animal est brûlée et l'autre partie est mangée par le prêtre. Donc, Dans les deux cas, une partie de l'animal est brûlée, agitée devant le Seigneur, et l'autre partie. Le prêtre mange. Maintenant, supposons que vous êtes un prêtre et que vous voyez quelqu'un venir avec un mouton ou machine translated by Google. 7. Chèvre, quel sacrifice veux-tu? Voulez-vous l'holocauste entier ou voulez-vous un de ceux-là? Est-ce que tu peux manger toute l'holocauste? Non. Avec l'un des ça, tu peux en manger. Oui. Est-ce que cela poserait un problème aux prêtres qui ont déposé? Quand les gens commencent à arriver, ils ont l'eau à la bouche quand ils voient les sacrifices. Viens. En fait, nous allons voir ce type nommé Élie et Samuel. Tu vas voir. Les enfants d'Élie arrachent la viande des sacrifices. Au fait, est-ce vraiment mauvais? Quand tu arnaques le sacrifice de Dieu. Donc pour les enfants d'Élie, ça ne va pas très bien se passer pour eux. Voyez-vous le problème? Ce genre de sacrifice, ils en mangent, alors qu'avec le, ils ne firent pas d'holocauste entier. Alors ils commencent à espérer une réparation ou une purification. Offre. Offre de bourse, libre arbitre, vue et action de grâce 18, 2219, 56. Maintenant, une autre, et c'est l'offrande de communion ou cela s'appelle le « shalom ». L'offrande de paix. La paix signifie « shalom » en hébreu. C'est ce qu'on appelle l'offre de bourse ou proposition de paix. Il existe trois manières différentes d'exécuter celui-ci. Cela peut être simplement fait pour une offrande de libre arbitre. En d'autres termes, vous pouvez simplement apporter une offrande à Dieu parce que vous. Je veux apporter une offrande à Dieu. Au fait, l'un d'entre vous a-t-il entendu parler du libre arbitre? Offre. C'est le contexte pour cela. C'est juste fait, pas par obligation ou responsabilité, c'est juste vous choisissez et vous apportez et vous offrez une offrande de libre arbitre à le Seigneur. Celui-ci est également utilisé pour l'accomplissement d'un vœu. Nous allons regarder le vœu nazaréen aujourd'hui. Lorsque vous accomplissez un vœu, vous faites cette communion, ou paix. Offrande, et c'est ainsi que vous terminez le vœu. Vous faites un sacrifice au Seigneur. Parfois, vous pouvez le faire comme un toda en guise d'action de grâce, juste pour rendre grâce au Seigneur, pour il est bon, car sa miséricorde dure à jamais. Son risque dure pour toujours. Suscite une offrande de remerciement. Cette offrande de paix est donc faite pour ces trois raisons. Mais ce qui est vraiment intéressant avec celui-ci, c'est de deviner qui va manger celui-ci. C'est appelé l'offrande de bourse. Cela signifie que les personnes qui amènent l'animal peuvent en manger une partie. Cela aussi. Ainsi, les gens eux-mêmes peuvent manger celui-ci. Alors celui-là tu le mangerais avec ton la famille et les prêtres ensemble. Ce serait un repas commun, c'est pourquoi ils l'appellent un machine translated by Google. 8. Offrande de camaraderie, parce que tout le monde peut en manger une partie. Offrande de céréales 19, 5, 7, 2, 1, 57. Voilà donc les principales offrandes en Israël avec les animaux et puis il y en a une. Plus. Je n'aime pas appeler celle-ci une offrande de céréales, car lorsque je dis céréales offrande, que est-ce qui vous passe par la tête? Tout d'un coup, tu as des Cheerios à travers votre tête ou vos postes toastiers ou autres. En fait, les céréales, c'est quoi? Grains. C'est pourquoi on l'appelle l'offrande de céréales. Quelqu'un se souvient-il des deux types de céréales que Israël l'avait-il fait? Le blé en serait un. Est-ce que quelqu'un se souvient de l'autre? Orge. Oui, cela est droite. Le blé et l'orge sont les deux céréales cultivées en Israël. Alors tu offrirais ce blé et cette orge. Était-ce une offrande avec du sang? Non, c'était du blé et de l'orge. Offre. Cela pourrait être fait avec de l'huile et du sel mais pas de levure. Il semble y avoir quelque chose avec de la levure qui fait lever le pain, c'est inacceptable. pas de levure, mais il pourrait y avoir du sel et il pourrait y avoir du pétrole. Quand je dis pétrole, on veut dire quoi? Huile d'olive. Alors tu pourrais mettre de l'olive. Huile grecque avec le grain, mélangez-le et remontez à partir de là. Donc ce sont les différents offrandes. Oui, il y aurait de l'encens dans l'environnement et vous pourriez en offrir en fait. Il y a une offrande d'encens. Dieu a fait fabriquer un encens spécial. Il existe différents aspects de que les prêtres avaient un encens spécial qu'ils brûlaient sur l'autel des parfums. Dieu a précisé la formule pour cela, donc il y avait une odeur ou un parfum particulier lorsque vous entrez dans le tabernacle qui était destiné aux prêtres. Mais il y avait aussi un autel d'encens et toi pourrais brûler de l'encens dans cette zone, mais ce n'est pas comme le reste de ceux-ci qui sont plus sacrificiels. Genre de choses. Fête d'Israël, 2 saisons 21, 5, 8, 2, 6, 0, 8. Passons au sacrifice. Nous avons fait tous les sacrifices, et c'est le partie difficile. Passons maintenant aux fêtes. Le peuple juif fait-il la fête? Oui, ils le font. Faire. Vous réalisez que le seul gars qui était en prison et que les Arabes avaient kidnappé était un soldat juif emprisonné depuis 5 ans. Il a été libéré aujourd'hui. Alors le juif. Les gens aujourd'hui célébreront sa libération. C'est encore aujourd'hui un problème majeur en Israël. Il y a donc une philosophie des saisons. Permettez-moi juste de décrire les saisons. Dans Nouveau. Machine translated by Google. 9. Angleterre, avons-nous 4 saisons par an? Certaines personnes pensent vraiment que nous n'avons que l'été et l'hiver. Mais en réalité, ce que vous voyez en ce moment, c'est l'automne. Et ce que certains d'entre vous sont montés au New Hampshire à l'automne et j'ai vu les montagnes couvertes d'arbres aux feuilles changeantes. Et la beauté de ça. Si jamais vous en avez l'occasion à l'automne, on m'a dit que le vent souffle. Soufflez les feuilles des arbres cette année. Le New Hampshire est absolument magnifique à voir. Les arbres aux couleurs d'automne. Nous avons donc l'automne, l'été et l'hiver. Les hivers sont rudes en Nouvelle-Angleterre. Puis nous arrivons au printemps. Et le printemps est une période où l'on arrive à vie. Nous avons donc 4 saisons par an. Maintenant, ce que je veux que vous conceviez, est ce que quelqu'un vient de Californie ici. Oui. Le temps en Israël est comme celui de la Californie, du moins à ce qu'on me dit, dans le sens où ils ont 2 saisons par an. Israël. Pour l'été, vous bénéficiez d'environ 4 ou 5 mois de sécheresse absolue. Chaque jour est exactement le même. Alors quand vous allez chercher la météo, voici la météo. En été en Israël, le même, le même, le même. Ça continue comme ça. Parce que chaque jour tu sors, il fait beau. Il fait frais le matin. Il fait chaud dedans. La journée, et ensuite que se passe-t-il le soir? Il fait à nouveau frais. Il fait presque froid à nuit. Et puis le lendemain commence frais le matin et chaud la journée. Pas de nuages. Chaque jour est ensoleillé. 4 mois absolument secs. C'est la saison estivale. C'est l'un des leurs saisons. Ce qui se passe alors, en hiver, c'est qu'ils ont leur saison des pluies. Ils ont donc ce qu'on appelle les pluies du début et les pluies du lendemain. Les premières pluies auront lieu en septembre. Octobre, novembre les premières pluies. Ensuite, ils reçoivent les dernières pluies du printemps. Et ainsi, ils ont les pluies précoces et tardives. Ils ont une saison des pluies et une saison sèche. Et ce que cela affecte des choses qu'ils avez-vous 2 grandes saisons comme ça? Donc, au printemps, ils vont essentiellement recevoir leur blé et orge lors des récoltes de printemps. Le blé et l'orge peuvent-ils passer à travers le un été avec 4 mois sans pluie? Non, ils ne peuvent pas venir. Donc le blé et l'orge Ils sortent de la saison des pluies et vos herbes poussent. Et puis, en gros, vous comprenez ceci. Si jamais vous allez en Israël, essayez d'y aller au printemps, si vous avoir le choix. Vous y allez au printemps parce que vous sortez de la saison des pluies, quoi. Machine translated by Google. 10. Va-t-il arriver au désert? Vous avez un désert tout marron et qui ressemble à un désert. Et puis tout d'un coup, la pluie va tomber sur le désert et que va-t-il se passer? Toutes les herbes poussera et ses petites fleurs de crocus couvriront le désert de fleurs, et ce sera absolument magnifique. Vous voyez les montagnes couvertes de ces fleurs et de ce vert. Quel est le problème? Combien de temps ça dure? Cela dure quelques semaines et puis quoi? Arrive. Le vent d'été sec et chaud arrive, et que est-ce qu'il fait à ces herbes dans une question de jour? Ça les fait juste brunir, et puis tout d'un coup, tout s'effondre. Revenir au brun. Ensuite, vous êtes brun pour le reste de l'été. Mais pendant environ 2 semaines. Le printemps, c'est absolument magnifique. Alors souvent en avril, c'est beau d'être fini. Là, le désert fleurit comme une rose, pour ainsi dire. Et puis tout d'un coup, tout s'est mis en place, se flétrit et meurt et l'été arrive. Pâques 26, 09-27, 19. Le blé et l'orge sont donc cultivés au printemps. Nous allons passer par les 5 grandes fêtes d'Israël, et ces fêtes sont des fêtes de récolte. Qu'en fêtez-vous? Toi. Célébrer après avoir récolté les récoltes. Ainsi, au printemps, ce sera le blé et l'orge récolte. Quelle est la date de la Pâque? Vous le savez tout. Dans le christianisme, nous. Quoi célébrer à l'heure de la Pâque? Pâque. C'est notre Pâque. Quand le Christ est mort et ressuscité. Encore une fois, c'est à ce moment-là qu'il célèbre la Pâque. Nous parlons donc du printemps. La Pâque est célébrée. Que font-ils? Ils ont un agneau de Pâque, ils ont la mère. Des herbes, et quelle est l'autre chose? Pain sans levain ou craquelin. Donc cela, en gros, c'est 3 choses à Pâques, pour le dîner de Pâques, le dîner de Pessa, et ensuite il passait 7 jours à manger des pains sans levain. 7 jours à manger uniquement du pain sans levain. Pain sans levain en se rappelant qu'ils devaient sortir d'Égypte rapidement et qu'ils ne l'ont pas fait. Avoir le temps qu'ils montent. C'est Lévitique 23, il parle de la Pâque et des azimes. Pain. Maintenant, c'est au début du printemps. Il commence la récolte du blé au début. Printemps. Fête des semaines Pentecôte 27, 2-0-2-9, 26. Maintenant, 7-7, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un fait des maths ici? 7 au carré, 40. 9. Plus un fait, 50. 7-7 est la fête des semaines. Vous voyez pourquoi il l'appelle le Machine Translated by Google. 11. Fête des semaines. Il est 7-7-7-7, c'est 7 semaines. Une semaine de semaines. 7 fois 7 la fête des semaines. 7-7 et un jour ajouté à cela, ça fait 50, Pentecôte. Quand je dis, Pente, que est-ce que, Pente? Pente est 5 comme le Pentagone. Donc, la Pentecôte se situe combien de jours après la fête de Pâques? 50 jours plus tard. Donc tu as Pâques et ensuite vous faites 7-7 plus 1. Les semaines des semaines sont 7-7. Et vous obtenez plus 1, vous obtenez 50, et cela devient la Pentecôte. Pente 5 coups. Au fait que se passe-t-il à la Pâque dans le Nouveau Testament? Jésus meurt. Vous avez J'ai eu la scène du Seigneur, puis Jésus passe et il est crucifié et 3 jours plus tard. Ressuscite des morts. Que se passe-t-il à la fête de la Pentecôte dans le Nouveau Testament? Actes. Chapitre 2. L'Esprit descend point. À propos, avons-nous même des églises qui sont nommées d'après ça? Il existe ce qu'on appelait autrefois le mouvement pentecôtiste. Fait. Quelqu'un va-t-il dans les églises pentecôtistes? Il y a des églises pentecôtistes, c'est là que vient. Au fait, que est-ce qu'un passage spécial pour eux? Actes chapitre 2 concerne l'esprit. Descendre, parler en langues et ce genre de choses. Les églises pentecôtistes sont donc sur cette base dans le chapitre 2 des Actes. Maintenant, c'est la Pâque et la fête des semaines. Ce sera quoi? Tôt que faisons-nous? 10 avril. Celui-ci aura lieu 50 jours plus tard, nous sommes en juin. Ensuite, généralement quelque chose. Comme en juin, la récolte du blé et de l'orge touche à sa fin. Glaner 29, 2, 7, 3, 1, 23. Que est-ce que glaner? Quand vous irez récolter le blé et l'orge, il y aura certaines actions. Tout comme l'herbe avec des cèpes, sur lesquelles il y a des têtes. La tête aura blé et orge dans la tête. Tu prends une faucille, tu sais ce qu'est une faucille, tu sais. Le signe communiste est la faucille. Vous prenez une poignée de ces tiges et vous la hachez. Saisir. Une poignée, hachez-la. Hachez-le, hachez-le. Donc tu le fais à la main. Et il est préférable de le faire avec un tracteur John Deere. Ils n'avaient pas le tracteur John Deere, alors ils vont le couper par la main. Maintenant, pendant qu'ils le coupent à la main, est-ce qu'une partie de ce grain va tomber sur le sol? Une grande partie ne le sera pas, mais une partie le sera. Était-il autorisé à ramasser le grain du sol? Non. Ils ont dû partir s'ils coupaient le grain, ils coupaient les tiges, et une partie est tombée par terre, ils ont dû la laisser là parce que les pauvres suivaient le mouvement. Machine translated by Google.
12. Fauchers glanant. Les pauvres ont ils du traveler et ramasser le surplus de céréales qui restait derrière?
Ils l'étaient aussi, lorsqu'ils ont sorti leur tracteur John Deere et qu'ils font leur champ, ils devaient arrondir les bords des coins de leur champ. Autrement dit, ils n'étaient pas autorisés à récolter jusque dans les coins. Les coins des champs étaient à arrondir. Qui récolterait les parties arrondies du champ? Les pauvres. Toi aussi. Voyez, c'était la façon dont Israël aidait à prendre soin des pauvres. Au fait, les pauvres. Dois-je sortir et travailler pour ce grain? Ce n'était pas comme s'il venait de le leur remettre. Il devait sortir avec les faucheurs, les suivre et travailler. Ils allaient au coin des champs et ils devaient récolter ces coins des champs. Alors ceci est appelé glaner. Quand nous entrerons dans le livre de Ruth, nous verrons que Ruth est une machine à glaner. C'est une ouvrière et elle sort et elle glane les champs après le faucheur. C'est donc au printemps. Le printemps récolte quoi? Le blé et l'orge. Ce sont vos graminées sont des choses qui grandissent. Récolte d'automne 31, 2, 4, 3, 4, 57. Maintenant, cela fait 4 mois sans aucune pluie. Quand les plantes n'ont pas d'eau, elles en ont. Quoi? J'ai essayé de le dire à ma femme. Certaines personnes ont la main verte, elle a la main brune. Pousse. Chaque plante que nous avons dans notre maison est tuée. Il faut y mettre de l'eau. Occasionnellement. 4 mois sans pluie. Maintenant, vous demandez, comment vivent les plantes? Ce qui se produit. Chaque matin, ils ont de la rosée. Pourquoi? Vous êtes la mer Méditerranée. La mer Méditerranée se dégage de cet air chaud et humide. La terre a eu toute la nuit et quoi? Et il arrivait à la température. La température baisse la nuit. La terre est fraîche, la chaleur. L'air humide arrive de l'océan, de la mer Méditerranée. Quand l'air chaud et humide frappe la terre fraîche, à quoi ça sert? Il se condense sur le terrain et provoque de la rosée. Je suis sorti. Les routes et la rosée ont été si épaisses que j'ai vu la rosée aller dans les égouts pluviaux. Dans En d'autres termes, il collecte. C'est tellement épais et ça descend. La rosée est donc la façon dont les plantes survivent à l'été. C'est le peu d'humidité qu'ils reçoivent. Alors, quel type de plantes ont-ils cultivé pour l'automne? 4 mois sans rien. Mais du soleil? Au fait, le raisin aime-t-il le soleil? Pour être honnête avec vous, que fait la plante aujourd'hui? Machine translated by Google. 13. La culture d'Israël est-elle la meilleure au monde? Quel genre de fruit aime le soleil, aime beaucoup le soleil? Un soleil solide 4-5 mois d'affilée. Des oranges. Vous obtenez des oranges de la taille d'un pamplemousse. Là. Ce sont les meilleurs de tous les temps. Je vous jure, ça vaut le détour rien que pour manger quelques oranges de Jaffa. Leurs oranges sont phénoménales car elles ont bénéficié d'un plein soleil pendant 5 mois. Alors, ici, ils font du raisin. Les raisins poussent et ils font beaucoup d'horticulture avec les raisins et les soins de vigne. Au fait, les raisins seront-ils beaucoup référencés dans les écritures? Avons-nous vu? Les raisins produisent quoi? Du vin, du jus de raisin et ce genre de produits. Nous verrons beaucoup de raisins dans l'écriture. Il y aura des figues sur ces palmiers. Ils auront cette grosse touffe de figues à ce sujet. Pesez, je ne sais pas, 40, 50 livres et il y aura toutes ces petites figues qui en sortiront. Les figues sont vraiment sucrées, et ce qu'elles feront aux figues, c'est qu'elles les écraseront et les retourneront dans la confiture de figues. Ils l'étaleront essentiellement sur du pain. Donc les figues sont vraiment quelque chose. 12 et ils l'enlèveront de ces palmiers. Ils auront un grand nombre de figues. Ils vont le détruire. Ils mettront la douceur de la figue sur les gencives et la bouche des bébés. Pour les bonbons. Les figues seront donc au rendez-vous. Ils font beaucoup avec les olives. Est-ce que les gens là-bas mangent beaucoup d'olives? Je ne peux pas supporter. Olives, donc je ne l'ai pas très bien fait. Huile d'olive, j'aime les plats cuisinés avec de l'huile d'olive. Ils vont faire beaucoup. Ils écraseront les olives, en feront de l'huile, et l'huile d'olive sera l'un de leurs produits majeurs. Chaque fois que vous voyez de l'huile dans les écritures, nous faisons référence à l'huile d'olive. C'est un élément essentiel pour eux. Ils l'enverront partout dans le monde. Figues, olives et raisins ce sont ce qu'ils récoltent tout l'automne. C'est à ce moment-là qu'ils récoltent à l'automne généralement en septembre. En octobre. Faites des trompettes 34, 5, 8, 3, 6, 28. À l'automne, ils auront la fête des trompettes. C'est ce qu'on appelle Rokasana. Raj signifie tête de l'année, donc le début de l'année commence en septembre. Ils ont différentes manières de gérer leurs années. Maintenant, quand je dis trompette, quel est le problème? Tu penses à une trompette, tu penses de quoi? Une trompette en cuivre qui joue des notes, tada tada, ce genre de choses. Quand ils disent des trompettes, c'est un chauffard qui est une corne de bélier. Ça sort comme ça, et ce sera en quelque sorte. Machine translated by Google. 14. Une chose circulaire. Ils sont à peu près aussi gros. Ils coûtent environ $125 pour un petit. Toi. Prenez les plus gros avec les doubles tourbillons. Ils coûteront environ $250, j'ai payé moins cher mon bac. De la trompette, quand je jouais de la trompette. Au fait, sur ces cornes de bélier, peux-tu jouer un accordé avec une corne de bélier? Tout sera ce son, Braha. Ce n'est pas comme un de la trompette comme vous en jouez, une sorte d'ode ou quelque chose sur votre trompette. Ce sera juste ils feront ce grand son, Braha, sortant de ce chauffard. Ce sera soyez juste un souffle de cette corne de bélier. Si jamais vous arrivez en Israël et que vous voulez y aller. Quelque chose de cool, un chauffard, c'est vraiment bien. J'aurais aimé avoir l'argent pour l'obtenir, mais ils sont très cher. Ces cornes de bélier, ils les ont encore aujourd'hui. À l'automne de l'année. Début de l'année, Braha, la trompette sonnera et ils appelleront cela la fête de les trompettes. C'est le début de la nouvelle année. Le jour des expiations 36, 2939, 29. Le jour des expiations aura lieu 10 jours plus tard au cours de ce premier mois. Ça s'appelle Yom Kippour. Maintenant, Yom, vous le savez parce que nous l'avons étudié dans Genèse 1. Yom, c'est quoi? Genèse 1, jour. C'est donc le jour. Yom Kippour est le jour des expiations. C'est le plus sacré de toutes les fêtes juives. C'est le plus sacré, le plus saint. C'est la bonne. Où l'on réfléchit tranquillement à la vie. Un jour saint très, très élevé. De toutes les fêtes, celle-ci est très sombre quand vous réfléchissez à vos péchés. Maintenant, que se passe-t-il réellement à Yom Kippour? Il s'agit de Lévitique 16. Fondamentalement, ils ont deux boucs. Ils font monter les deux chèvres. Et te souviens-tu qu'ils tirèrent au sort la chèvre? Ainsi, une chèvre est libérée, et là. Une autre chèvre, c'est quoi? Sacrifié. Ils prennent le sang, donc le sang de la chèvre est ensuite pris. Une fois par haine, le sang va au propitiatoire. Rappelez-vous que nous avions l'arche du engagement. L'arche d'alliance était une boîte comme celle-ci. Au-dessus de la boîte, il y avait ceci. Propitiatoire avec les deux chérubins dont les ailes se touchent par-dessus. Entre eux. Les chérubins étaient appelés propitiatoires, et une fois par haine, ils prenaient le sang de ceux chèvres qui avaient été sélectionnés, et ils mettaient le sang sur le propitiatoire. Au fait, Joseph et quelques gars plus tard nous disent que les prêtres avaient peur. Parce que lorsque vous êtes là-dedans, si le sang n'était pas accepté, Dieu pourrait vous tuer sur le coup. Machine translated by Google.
15. Place. Allure. Cheulsant fate, say adesher encore daughter du preacher pour que, lorsqu'elle y preacher parted.
Dans le Saint des Saints et Dieu l'a tué, tous les autres prêtres n'ont pas besoin d'entrer et essayer de le faire sortir et de vous faire tuer aussi. Alors ils lui ont attaché une corde avec une clochette dessus. Et si le gars tombe, il le tire simplement avec la corde. C'est plus tard. Tradition. Mais c'est le jour grand et saint où ils prennent le sang et le mettent sur le propitiatoire. Que se passe-t-il avec l'autre chèvre? L'autre chèvre est libérée. Voyez-vous le? Des images là-bas. Une chèvre meurt et le sang coule. L'autre chèvre est libre, et cette chèvre est le bouc émissaire. Ainsi, le bouc émissaire est libéré, mais on meurt pour cela. Pouvez-vous voir l'idée? De substitution là-bas. Cela jouerait en fait avec Jésus-Christ selon lequel une personne meurt. Et l'autre personne est libre. C'est donc un jour grand et saint. Au fait, si vous comptez attaquer les Juifs, quel est le jour où vous voulez le faire? Les attaquer. Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de la guerre du Kippour? C'est à ce moment-là qu'ils ont été attaqués. Or, c'est le jour le plus élevé et le plus saint. Certains juifs ne continueraient-ils pas à se battre ce jour? Le problème est que la plupart des juifs sont laïcs, du moins beaucoup de juifs en Israël le sont. Séculiers. Vont-ils se battre? Ils vont se battre, et donc ce qui s'est passé c'est que lorsqu'ils sont arrivés attaqués, ils ont riposté et les ont fait exploser. Ils ont été attaqués lors de leur yom. Kippour et cela vous montre juste quelque chose. Faites des tabernacles ou faites des cabanes souk au 39, 3044, 26. Maintenant, la fête des tabernacles. Que est-ce que c'est? La fête des tabernacles est le moment où ils doivent sortir et vivre sous des tentes comme ils l'ont fait pendant 40 ans dans le désert. Errant. Ainsi, la fête des tabernacles commémore l'errance dans le désert lorsque ils étaient dans le désert avec Dieu et les épreuves du désert. quand il campait avec Dieu, se déplaçant d'un endroit à l'autre. Cela s'appelle Souko. Souka est le nom de cette cabane. Ils doivent construire ces tentes et vivre dans ces tentes. Lorsque j'étais en Israël, le docteur Perry Phillips, le mari d'Hélène Phillips, et moi sommes allés. Parce que nous voulions aller à Mehach Yahirim. Mehach Yahirim est l'endroit où le vrai. Les juifs religieux vivent à Jérusalem. Avez-vous déjà vu les vrais juifs religieux avec le Machine Translated by Google. 16. Des chapeaux noirs et des culs noirs bouclés. Ils se promènent toujours autour d'eux, Shim Israël, et ils rebondissent comme ça. Nous avons donc voulu descendre voir comment les juifs orthodoxes célébraient avec ces soukas et voyaient comment ils ont construit ces tentes. Nous sommes donc descendus à Mehach Yahirim et nous avons remarqué qu'il y avait toutes ces femmes accrochées à l'extérieur. Barre de cet endroit et nous avons entendu cette musique. Alors nous nous sommes approchés et, en passant, nous avons fait. Les juifs séparent le culte des hommes et celui des femmes. Ouais. Donc les femmes n'étaient pas autorisées à entrer. Et il y avait une pièce, plus grande que cette pièce, et il y avait ce type là-haut qui pleurait sur le clarinette. Alors il pleure cette musique, et il y a environ, je ne sais pas, 200 gars là-dedans. Pièce, rebondissant avec les mains sur les épaules et rebondissant. Donc, Perry et moi pensons, et, tu sais, nous sommes des hommes, ça va. Nous ne sommes pas juifs, mais parle. D'une certaine façon, quand on n'est pas juif, faut-il alors porter une kippa sur la tête. Donc, évidemment, tu me regardes, je ne suis pas juif. Alors nous avons eu une kippa, mis une kippa sur notre tête. Et nous descendons dans cette pièce. Eh bien, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que c'est comme un match de football sans règles. Ces gars commencent à arriver, et ils commencent à vous dénigrer. Vos côtes. Vous y allez en pensant que c'est comme une affaire de communauté, vous êtes avec eux. Tout d'un coup, bam. Vous êtes touché. Ensuite, bam, vous êtes frappé de l'autre côté. Je suis un. C'est un assez grand garçon, alors ne commence pas à me dénigrer comme ça. Alors on se fait tabasser, mais toi. Je dois me faire taper sur la musique. Donc, à chaque fois qu'il y a un battement, vous êtes frappé. Alors nous avons dit, d'accord, je ne vais frapper personne, mais j'ai commencé à protéger. Moi-même parce que ça devenait blessant. Ce qui m'inquiétait vraiment, c'était le chapeau sur mon. Parce que si ce chapeau s'enlève, y aura-t-il un problème? Oui. Vous pourriez être piétiné à mort, et je suis très sérieux à ce sujet. Après qu'on ait été assez frappé, je étais, il est temps de sortir d'ici. Nous en avons assez. Mais c'était juste de la danse. À la musique, mais c'était vraiment physique. C'était un peu comme une danse masculine. C'était comme une sorte de bâche. De choses. En fait, c'était vraiment cool, mais je ne me sentais pas approprié de te répondre. Tu sais ce que je dis. Quoi qu'il en soit, même si j'ai été formé, j'ai joué au football, donc j'aurais pu leur faire un truc de flipper, mais j'ai pensé, ouais, tout ce que j'ai à faire c'est fais ça et ensuite j'aurai 10 gars sur moi. Ce n'est plus très bien. Question de l'étudiant, eh bien, si votre kippa tombe, vous êtes censé porter un Machine Translated by Google. 17. Kippa, pour montrer du respect. Si cela se produit, c'est comme si vous ne faisiez pas preuve de respect. Ouais, ces garçons ne se soucient pas des accidents. Ils se soucient que la kippa soit sur ta tête. Ce qu'on aurait dû avoir, on aurait dû avoir une épingle à cheveux pour l'accrocher sur notre tête. C'est comment ils le gardent, mais je n'avais pas d'épingle à cheveux et donc j'essayais juste de l'équilibrer. Ma tête en me faisant frapper. Ce n'était pas bon. Alors on sort de là, on descend les escaliers et on sort. Je veux voir. C'est Souka. Ils vont construire ces tabernacles / hut, alors nous allons voir comment ils construisent leurs tabernacles. C'est ainsi qu'ils construisent leurs tabernacles, ils utilisent des feuilles de papier de 4x8. Contreplaqué, et ils construisent deux feuilles de contreplaqué en hauteur, et ils en construisent deux d'un côté, deux de l'autre, deux de l'autre, et en gros ils se font une petite cabane, et ils placent des branches de palmier sur le dessus. Ce ne sont donc que ces feuilles de contreplaqué 4x8. Je pensais qu'il allait vraiment faire des tentes ou quelque chose comme ça et c'est juste ça. Contreplaqué. J'étais en génie électrique, alors je remarque le cordon électrique, et donc je regarde la maison là-bas et j'ai dit, c'est un cordon électrique qui sort de là. Ça va dans cette souka. J'ai pensé, à quoi sert ce cordon électrique dans cette souka? Ils sont censés être à la dure dans le désert. Alors je vais à la souka de ce type, et j'ai passé la tête là-dedans pour voir, je voulais juste voir pourquoi il y avait un cordon électrique dans cette souka. Alors j'ai passé la tête là-dedans et voici ce mec, assis dans un lazy boy. Chaise en train de regarder la télévision dans sa souka. Je me dis, ouais, Moses, tu es dehors dans le... La nature est à la dure, et ce type est assis dans un fauteuil lazy boy et regarde la télévision. Ça m'a en quelque sorte tout pris. Je ne dis pas que tout le monde là-bas l'était. Regardez la télévision. Je suis désolé. Le seul gars que j'ai regardé regardait la télévision. Je ne dis pas qu'il était tout câblé comme ça, il n'était pas tout câblé, je devrais dire ça. Là. En était un qui était câblé et c'est pourquoi j'ai regardé là-dedans. Mais de toute façon, il y a donc les souka. Voilà donc la fête des tabernacles, en souvenir de l'errance dans le région sauvage. Tout cela se passe en septembre. Implication dans le Nouveau Testament 44, 2, 7, 4, 6, 31. Maintenant, une chose que je devrais dire à propos de la fête des trompettes, est ce que beaucoup de ces fêtes ont-elles des ramifications dans le Nouveau Testament. La fête de Pâques, la fête des tabernacles. Machine translated by Google. 18. Quelqu'un a dit un jour que Jésus reviendrait à la fête des trompettes. La fête n'a jamais été accomplie. Nous ne savons pas ce que cela signifie réellement. C'est juste qu'il explose. Les trompettes. Vous vous souvenez que lorsque la trompette sonnera, le Christ descendra. Et donc certains. Les gens associent cette fête des trompettes en disant que Jésus reviendra que et ce que c'était. 2010 quand la trompette sonne. Oh, 2010. Nous sommes en 2011. Ah, ça m'a manqué. Quoi qu'il en soit, que est ce que c'est? Le problème avec ça. Est-il possible qu'il y ait quelque chose avec cette fête des trompettes? Question, qu'a dit Jésus? Jésus dit-il explicitement, personne ne sait, le. Quoi? Le jour ou l'heure. Donc ce que je dis, c'est que je ne peux pas dire que cette fête des. C'est les trompettes. Quand quelqu'un commence à dire, c'est à ce moment-là que Jésus va revenir. Nous. Ce type avait-il fait du camping ce printemps 2012? Est-ce que quelqu'un suit ça? Dès le printemps. Il y avait ce type cinglé qui disait, le Christ revient, juste avant l'obtention du diplôme. Ne passez pas vos examens. Pourquoi devriez-vous passer vos examens? Jésus vient. Arrière droit. Quoi qu'il en soit, ce type a dit ça et puis ça n'a pas marché comme toujours. Cela a. Depuis, je suis là depuis les années 60. Je me souviens de ce truc. C'est. Non pas les années 18, mais les années 1960. Vous savez ce que je dis alors soyez prudents. Quand quelqu'un commence à dire que Jésus va revenir et qu'il utilise la fête de trompette, faut-il mettre un gros point d'interrogation là-dessus. Éloignez-vous, c'est idiot. Alors, mais. Il y a peut-être quelque chose là-dedans, je ne sais pas, mais personne ne le sait. Jésus dit, personne. Connaît le jour ou l'heure. Alors gardez cela à l'esprit. mais voici quelques-unes des fêtes d'automne. Donc les fêtes de printemps, la récolte du blé et de l'orge. Fêtes d'automne, raisin, figue, olive, ces trois fêtes d'automne. Et ce que nous venons de traverser. Yom Kippour. C'était Yom Kippour que et ce que c'était. Il y a seulement 3 ou 4 semaines. Et ce que quelqu'un. Tu te souviens de Yom Kippour? Il y a environ 3 ou 4 semaines, nous avons traversé cette période. Sabbat et année sabbatique 46, 3, 2, 4, 9, 32. Maintenant, d'autres moments spéciaux en Israël. Israël avait des moments particuliers du sabbat. Une fois par semaine, il célèbre le sabbat, du vendredi soir au samedi soir. À partir du moment où le soleil se couche vendredi soir, en gros samedi est leur jour de congé, et ils célèbrent. Machine translated by Google.
19. Ler Shabbat. Shabbat Shalom. Eli Shabbat est Eli Samedi. C'est du vendredi soir au samedi.
Nuit. Nous en avons déjà parlé. Ils ont aussi ce qu'on appelle l'année sabbatique, et c'est plutôt sympa. Ils avaient une année sabbatique tous les 7 ans. Ils devaient laisser la terre se reposer. Tous les 7 ans. Ils devaient laisser la terre se reposer. La terre se régénérerait elle alors. Vous savez, les plantes décomposées en fertilisant la terre. Donc tous les 7 ans, ils étaient censés laisser la terre se reposer pendant un an, puis ils pourraient le cultiver pendant encore 6 ans. Ils étaient également censés libérer les débiteurs de leurs dettes. Leur contrat. Les domestiques devaient être libérés la 7e année. Dans cette culture, beaucoup de gens qui sont devenus des serviteurs. Pourquoi était-ce? D'accord, il y a une famine dans le pays, tu ne peux pas nourrir ton famille. Il y a un type riche. Il possède un grand terrain et il est capable de nourrir d'autres personnes. Votre famille va mourir de faim. Que devrais-tu faire? Dites-vous à ce type, d'accord, je le ferai. Travailler pour vous. Je deviendrai ton serviteur parce que je ne peux pas nourrir ma famille. Et ainsi. Fondamentalement, en raison de la dette et de la famine, les gens s'engageraient auprès de pays plus riches. Personne. Au fait, était-il censé être libéré tous les 7 ans? Alors tous les 7 ans, vous seriez libéré de vos dettes et pourrez tout recommencer. Maintenant, l'un des problèmes est le suivant, les Juifs ont-ils déjà pratiqué l'année sabbatique? A fait. Ils laissent la terre en jachère pendant un an après 6 ans, puis un an de congé. Ils ne l'ont jamais fait. Donc, dans Lévitique chapitre 25, les Juifs ne l'ont jamais fait. Dieu a-t-il gardé une trace de cela? Il est sûr. A fait. Dieu en a gardé la trace, et quand ils sont allés à Babylone, quand Daniel, Shédrach, Meshach et Abednego sont emmenés à Babylone par Nabuchodonosor, Dieu dit. Vous êtes à Babylone pendant 70 ans. Pourquoi 70 ans? Dieu dit, ma terre n'a pas. C'est reposé. Dieu a gardé une trace de ces 7 années, il les a additionnées et dit, vous êtes sortis. D'ici. Maintenant, ma terre va se reposer. Pendant 70 ans, tu es hors de la terre. Parce que tu n'as pas fait ça. Dieu en a donc gardé la trace et la captivité babylonienne est 70 ans sur cette base. Question de l'étudiant serviteur. Oui, vos dettes seraient libérées. Maintenant il y a différentes manières d'obtenir des serviteurs. Les serviteurs juifs seraient libérés. Y a-t-il un autre? Comment trouvez-vous des domestiques? En entrant en guerre et en capturant ce genre de personnes, et c'est Machine translated by Google. 20. Quelque chose de différent. Mais les serviteurs juifs seraient libérés de leurs dettes. Mais ceux capturés pendant la guerre, je pense, continueraient probablement parce qu'ils sont dans un monde différent. Environnement. V. Année du Jubilé 49, 3350, 59. L'année du jubilé a lieu tous les 7 ans. Avez-vous encore cette idée de 7?
7.
7, 7 plus 1, c'est tous les 50 ans. Donc il y a ce truc de 7 heures sur 7.
Encore.
7, 7 plus 1, 50 ans, et c'est dans Lévitique 25.
C'est à ce moment-là.
Supposons que vous tombiez dans la pauvreté et que vous le deveniez. Pouvez-vous vendre votre terrain pour de l'argent?
Les gens payent-ils de l'argent pour la terre?
Alors tu vends ta terre pour de l'argent, mais c'est ta famille.
Héritage.
Donc ce qui s'est passé, c'est que tous les 50 ans, tu étais censé avoir ta famille.
Terre d'héritage en arrière.
Maintenant, quel est l'avantage de cela?
Autrement dit, tous les 50 ans.
Est-ce que ta famille peut recommencer?
Cela aurait-il alors tendance à éliminer
la pauvreté parce que tous les 50 ans on la récupère pour recommencer?
Serait-ce aussi
éliminer les gens qui deviennent vraiment, vraiment, vraiment riches?
Parce que tous les 50 ans, quoi?
Arrive.
Ils ont dû tout rendre.
C'était donc une manière de modifier les choses.
C'est un
façon intéressante de structurer les choses, je pense, en évitant les très, très riches et en évitant aussi l'extrême pauvreté.
Ainsi tous les 50 ans, la terre, l'héritage revenait aux
familles l'année du jubilé.
Les esclaves furent également libérés le jour du jubilé, affranchissement
des esclaves.
W pour IM 51-005509.
Il y a quelques autres fêtes.
La fête de Pourim est une fête intéressante du
livre d'Esther.
Est-ce que quelqu'un se souvient?
Nous n'avons pas encore lu Esther, mais laissez-moi juste.
Je vous donne un aperçu d'Esther.
Dans le livre d'Esther, c'est pendant la période perse.
Xerxès est le roi des Perses.
C'est après les Babyloniens.
Qui a battu les Perses?
Alexandre le Grand.
Ainsi va, les Babyloniens, les Perses, les Grecs.
C'est la séquence.
Qui en veut aux Grecs?
Les Romains.
Voilà donc la séquence, babylonienne, persane.
Grec, romain.
Alors les Perses prennent le pouvoir, et ce type n'aime pas Mardoché.
Qui est juif, et il dit, je vais tuer tous les juifs.
Son nom est Rémen.
Donc,
Rémen dit que parce qu'on ne lui a pas accordé le respect qu'il pensait devoir avoir, il va.
Machine translated by Google.
21.
Tuer tous les juifs.
Pendant ce temps, Esther est la reine du roi Xerxès.
Donc c'est elle la reine.
Et elle est juive.
Elle découvre que Haman essaie de tuer tous les juifs.
Alors elle parle.
Puis elle invite Rémen à dîner.
Elle prend la parole et finalement Rémen est pendu.
Rémen fit construire une potence sur laquelle il allait pendre Mardoché, son oncle.
Essentiellement,
ce qui se passe, c'est que Haman est pendu à sa propre potence et que les juifs sont autorisés à se battre.
Dos.
Alors ils ont évité cet holocauste, ce génocide.
D'ailleurs, à chaque époque, les gens
tu aimes tuer des juifs.
Je veux dire, cela remonte à la période perse.
Alors ici,
les juifs ont été épargnés par ce génocide en grande partie grâce à ce qu'Esther a fait.
Alors ils célèbrent le livre d'Esther.
Maintenant, voici comment ils le célèbrent.
Je suis assis sur un trottoir, j'étudie mon hébreu, et
au coin de la rue, arrive une bande de petits enfants tous habillés comme des cowboys et des showgirls.
Et ils portaient ces sacs de bonbons, et ils sont venus vers moi pour me demander des bonbons.
Je
pense qu'en tant qu'Américain, c'est un juif, quoi.
Halloween.
J'ai dit, je ne savais pas que les juifs.
J'ai fait Halloween.
Donc je pense qu'il y a un Halloween juif.
Ils ne font pas Halloween.
Ce
est la fête de Pourim célébrant le fait qu'Esther ait épargné le peuple juif sous la main
de Dieu.
C'est ainsi qu'ils le célèbrent.
Ils y vont et demandent des bonbons et les enfants reçoivent tout.
Bonbons?
Les enfants aussi ont tous ces appareils bruyants.
Avez-vous déjà vu ces choses?
Ils sont
au bout d'un bâton et ils sont comme ça, et les enfants les balancent comme ça, et ils font du bruit. Ils ont aussi ces trucs-là, ils soufflent et ça fait du bruit. Ce qui se produit. C'est accent grave dire que lorsqu'ils iront à la synagogue pour célébrer la fête de Pourim, ils liront le tout le livre d'Esther. En public, le rabbin de la synagogue lira le livre d'Esther. Maintenant, c'est long. Ce n'est pas si long qu'un livre. Mais le livre d'Esther dit que le nom de Rémon doit être noyé pour toujours. Rémon était celui qui essayait de tuer les Juifs. Le nom d'Aman devait donc être étouffé pour toujours. Maintenant tous ses enfants sont assis là. Avec ses faiseurs de bruit, alors que se passe-t-il? Le rabbin monte là-haut et il essaie de lire. Rémon, et il essaie de faire inscrire le nom d'Aman avant que les enfants ne puissent le noyer. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il lira l'histoire d'Esther, et les enfants seront prêts, ils sont prêts à noyer le nom d'Aman. Alors le gars va essayer de le glisser avant de pouvoir le faire. Par le. Bref, est-ce que c'est vraiment cool pour les enfants? Oui, les enfants participent, les enfants peuvent. Machine translated by Google.
22. Noyer le rabbin? Pouvez-vous imaginer si a? Dans l'église baptiste dans lesquelles j'ai grandi, asseyez-vous simplement.
Là les mains jointes, sauf quand tes parents ne peuvent pas te voir, tu tires des crachats sur la tête des gens, mais à part ça. Voyez-vous comment les enfants participent? Ils ont noyé le nom d'Aman. C'est la fête de Pourim. Cela se produit généralement dans le mois de mars, vers cette époque. C'est vraiment une sorte de fête sympa pour la fête d'Esther. Maintenant, Esther est bien après le Pentateuque et Moïse. Xanouka 55, 1057, 08. En voici maintenant une dont vous connaissez probablement très bien le nom, la fête de Hanouka. Si je vous dis, joyeux Hanouka, quand Hanouka aura-t-elle lieu? Généralement. Autour de quelle fête pour nous? Aux alentours de Noël. Hanouka a généralement lieu en décembre. Vers Noël, juste avant Noël. Hanouka est en fait une célébration de ce que firent les Makchabées vers 165 avenue. Quelqu'un connaît-il le livre des Makchabées? C'est dans les Apocryphes. C'est après que l'Ancien Testament fut terminé, ces Makchabées. Fondamentalement, le même genre de choses se produisait. Ce type nommé Antiochus Épiphane était un type vraiment méchant en Syrie. La Syrie descendait en Israël pour tenter de tuer les Israélites et détruisait les. Ils n'avaient pas le droit de circoncire, ils brûlaient les. Selon les Écritures, ils tuaient des Juifs et essayaient de dominer et d'héléniser les Juifs. Quoi? Ce qui s'est passé, c'est que ces Makchabées se sont levés, leur nom signifie en réalité, marteau, le. Les Makchabées se sont soulevés et se sont révoltés contre le dirigeant syrien et ont purifié le temple. Lorsqu'ils purifièrent le temple, Dieu multiplia l'huile du temple, et ainsi le chandelier dura 8 jours au lieu de 7. Alors ils célèbrent la fête de Hanouka célébrant la purification Maccabée du temple. Au fait, est-ce que Jésus célébrait Hanouka? Jean chapitre 10, verset 22 dit clairement que c'était la fête de dédicace et Jésus descendait là-bas. Donc même Jésus au fait, Jésus était-il joli? Juif. Oui, c'était juif. Jésus est juif et il célèbre la fête juive de Hanouka. Ainsi Jean mentionne la fête de la dédicace / des Lumières qui est la fête de Hanouka de la période des Makchabées. Ce sont donc les fêtes d'Israël, et c'est en quelque sorte une chose intéressante. Les Juifs aiment célébrer leurs fêtes et nous aussi. Et le livre des nombres 57, 095, 800. Machine translated by Google. 23. Alors maintenant, je veux passer au livre des nombres. Beaucoup de gens n'aiment pas le livre des nombres. Il y a trop de généalogie, trop de noms et de numérosés. Des choses Ainsi, le livre des nombres est souvent passé sous silence. Je veux te dire que le livre des nombres, sur le plan théologique, m'a façonné autant que probablement n'importe quel livre du monde. Bible ? Et vous dites, vous vous moquez de moi. Je vais vous montrer pourquoi. Il y en a vraiment des trucs intéressants et dynamiques dans le livre des nombres. Il raconte les 40 années errant dans le désert quand Israël errait dans le désert. Quand ils erraient dans le désert, ils n'avaient pas quoi. Ils n'avaient ni nourriture, ni eau, ni leadership. Ils avaient beaucoup de problèmes. Ils se plaignaient de tout. Alors le désert. Les pérégrinations dans le livre des nombres sont généralement considérées comme un livre négatif, mais je tiens à partager certaines choses à partir de cela. Z vue de Naziréen nombre 6:58-0170-18. Dans le livre des nombres, chapitre 6, nous apprenons l'histoire de ce Naziréen et ce qu'il appelait le vue de Naziréen. Cela vient donc de Nombre, chapitre 6. Il y a trois règles. Comment est-ce qu'on devient Naziréen? Voulez-vous devenir Naziréen? Comment deviens-tu un Naziréen? Il y a trois règles, essentiellement pour se consacrer au Seigneur de la manière de ce vu Naziréen. La première chose est de ne pas toucher les cadavres. Maintenant, vous dites, eh bien, c'est plutôt bien. De toute façon, je ne veux pas toucher les cadavres. Dans notre culture, d'autres, les gens touchent des cadavres pour nous. Dans cette culture, avaient-ils des pompes funèbres ou les membres de la famille doivent-ils préparer le corps pour l'enterrement? Oui. Et donc, si vous êtes un Naziréen, tu n'as pas le droit de toucher des cadavres, ce genre de choses, donc c'était important. Le Naziréen ne devait manger aucun produit du raisin. Cela veut dire certainement non. Du vin, pas de jus de raisin, on ne pouvait même pas manger de raisins et on ne pouvait pas non plus manger de raisin sec. Rien du raisin n'était autorisé, donc aucun produit du raisin. Troisièmement, dès que j'aurai mis ce troisième là-haut, tout le monde va penser que le même pensée. Quand je mets celui-ci là-haut, qui vous vient à l'esprit? Vous n'êtes pas autorisé à vous couper les cheveux Samson. Samson vient à l'esprit de tout le monde parce que Samson n'avait pas le droit de se couper les cheveux. Au fait, Samson a-t-il des problèmes avec certains machines translated by Google? 24. De ses autres avant qu'il n'arrive aux cheveux. Samson était un Naziréen. Il était un Nazaréen depuis sa naissance, il n'a donc jamais pu se couper les cheveux dès sa naissance. Question, il ne l'était pas censé toucher des cadavres, quel est le problème avec ça? Samson a-t-il fait mourir corps? Oui, d'accord, alors vous obtenez les cheveux. Les cheveux de Samson étaient la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce sont donc trois choses pour un vu Naziréen, et une personne consacrerait eux-mêmes spécialement au Seigneur. Il ne prendrait ni raisin, ni rasoir sur la tête, et pas de contact avec des cadavres. Maintenant, quelle en était la fonction? La personne se séparait pour Yahweh, ils font vue de se séparer, spécialement devant le Seigneur. Cela a montré que Dieu était au-dessus de la nourriture, Dieu était au-dessus de la famille et Dieu était même au-dessus de la façon dont on garder son propre corps. Dieu était au-dessus de la nourriture, de la famille et du propre corps. C'était visible. Mémorial. Si une personne a prononcé un vu de Naziréa au fait, deviez-vous prononcer un vu de Naziréa? Faire un vu pour toujours. Il fallait naître comme Samson était un Naziréen dès sa naissance et il était un Naziréen toute sa vie. Savez-vous que beaucoup de gens ont fait le vu de Naziréen pendant seulement un an? Pendant 2 ans, ou 6 mois, ou quelque chose comme ça. Tu pourrais faire le vu pour une durée plus courte. Période de temps. Vous n'étiez pas obligé de le faire toute votre vie. Maintenant, Samson l'a fait pour tout son vie, mais en tant que personne normale, vous pouvez simplement le faire pendant une période de temps déterminée. D'ailleurs, si tu as regardé Samson, saurais-tu qu'il est naziréen? Pourquoi? Il ne s'est jamais coupé les cheveux. Dire. Moi à propos de la barbe et des cheveux du gars. Maintenant, ma femme, nous avons grandi à l'époque où ces gens étaient appelés hippies. Donc ma femme avait les cheveux dans le dos. Apparemment, vos cheveux cessent de pousser lorsqu'ils atteignent une certaine longueur. Maintenant la barbe du mec, je ne l'ai jamais. J'ai fait pousser ma barbe aussi longue, mais je pense la même chose avec la barbe du gars, mais est-ce que Samson a-t-il une grosse chevelure? Il ne s'est jamais fait couper les cheveux. Quelqu'un a-t-il déjà vu une photo de Kate Green? En fait, l'un de mes héros est ce type nommé Kate Green, et sa coupe de cheveux me rappelle Samson en fait. Abandonner des choses pour Dieu, la nourriture, la famille, même la façon de décorer son corps. Il s'agit d'abandonner des choses pour Dieu. Maintenant, comment accomplir un vœu naziréen? Lorsque vous avez terminé votre vœu nazaréen, comment le terminez-vous? Eh bien, tout d'abord, vous. Machine translated by Google. 25. Offrir un sacrifice à Dieu. Cela ne semble-t-il pas naturel? Tu vas finir ton vœu de dédicace à Dieu et vous offrez un sacrifice. La deuxième chose que tu fais, c'est de te raser ta tête, et ce que ça doit être douloureux. Vous vous rasez la tête et vous brûlez les cheveux. Hôtel? Alors tout d'un coup, le gars passe d'une grosse chevelure à un crâne rasé et les cheveux sont rasés. Question de l'étudiant Louis, Samson. Quand je dis combien d'entre vous disent Samson et mettre un P dans votre Samson? Est-ce que quelqu'un met un P dans son Samson? Toi? Les gars travaillent à partir de la Septante grecque, même si vous ne le saviez pas. Fait. Le nom de Samson contient un P. Non, ce n'est pas le cas. Mais d'habitude tout le monde le prononce. Samson basé sur la Septante, le texte grec de l'Ancien Testament. Ils ne le font même pas. Je sais pourquoi, mais en réalité, son nom est Shimshon. Shimshon est basé sur le mot « soleil ». Le nom de Samson signifie donc en réalité « ensoleillé ». Donc, Suni est le nom de Samson. Samson il était naziréen de naissance. Samuel était également naziréen de naissance. Beaucoup de gens ne le font pas. Associer le vœu naziréen à Samuel, mais il était également naziréen de naissance. En voici un dans le Nouveau Testament, Paul. L'apôtre Paul fait un vœu à la fin de son ministère alors qu'il revient à Jérusalem, essayant de collecter des fonds pour les pauvres de Jérusalem. Paul fait un vœu nazaréen. Au fait, cela veut-il dire que Paul doit-il aller à Jérusalem et se brûler les cheveux sur l'autel? Est-ce qu'il se rase la tête et brûle ses cheveux sur l'autel? Rappelez-vous que tous ces gens disaient à Paul, « Paul, ne monte pas à Jérusalem. » Paul, si tu montes à Jérusalem, ils vont t'y capturer et ça va être vraiment mauvais pour toi. Question: Paul avait prononcé un vœu de Naziréa. A-t-il besoin aller à Jérusalem pour se brûler les cheveux sur l'autel? Oui, il le fait. Paul continue. Que? Une fois arrivé là-haut, est-ce qu'ils le mettent en prison? Oui, ils le font. Alors c'est comme ça que Paul était. Quoi qu'il en soit, il fait un vœu naziréen pour une période de, je ne sais pas, un an ou deux. C'est ce que fait l'apôtre Paul. Maintenant, cela soulève une autre question: Jésus était-il un naziréen? Vous dites non. Parce que j'ai vu des photos de Jésus et il est toujours bien rasé. Jésus était-il un naziréen? Quand j'étais plus jeune, on m'a appris que Jésus était un naziréen et, par conséquent, Jésus ne l'a pas fait boire du vin. Par conséquent, parce que Jésus n'a pas bu de vin, vous ne devriez pas en boire. Jésus était un naziréen. Quel est le problème avec cet argument? Oui, Jésus n'a pas seulement bu du vin. Machine translated by Google. 26. Il faisait du vin. Mais ensuite vous dites, eh bien, c'était du jus de raisin et ce n'était pas vraiment. Et vous vous emportez sur tout cela, mais Jésus n'était pas un Nazaréen. Jésus était un Nazaréen. Qu'est-ce que c'est signifié? Un Nazaréen veut dire qu'il est de la ville de Nazareth, c'est tout ce que cela veut dire. Jésus était Nazaréen, ce qui signifie qu'il était originaire de la ville de Nazareth en Galilée. Ce ne est pas. Veut dire qu'il était un Naziréen. Jésus n'était pas un Naziréen. C'était un Nazaréen de la ville de Nazareth. C'est important, que faites-vous avec l'alcool? La Bible. Enseignez l'abstinence d'alcool. Jésus a bu du vin. Dans la coupe de Pâques nous savons quoi était dans la coupe de la Pâque juive. C'est du vin dans la coupe. Vous dites, est-ce légitime et puis-je boire du vin en tant que membre du corps professoral du Gordon College? Oui, tant que ce n'est pas sur le campus. Je pense qu'ils ont une règle, les professeurs peuvent quitter le campus. Je suis un abstinent comme jusqu'au bout. Autour. En grande partie, je ne bois pas d'alcool, sauf si je me trouve dans une situation culturelle comme celle d'un contexte juif et le gars me tend du vin et tu fais une cérémonie et toi participer. J'ai conseillé pendant un bon moment une femme dont le mari était alcoolique. Il rentrait à la maison, battait ses enfants et faisait toutes sortes de choses vraiment mauvaises. Mon beau-frère a de gros problèmes d'alcool. Je te l'ai dit, nous avons tout ramassé. L'homme en était propriétaire, il l'a apporté chez moi. Un autre de mes amis, Eric Zimmerman, un de mes bons amis étudiants a été tué une nuit lorsqu'un ivrogne a traversé un arrêt en courant. Signe, a tué Eric mort sur le coup. Mon ami, il est encore dans la tombe aujourd'hui à cause de cela. Donc, après la mort d'Eric, je ne bois plus. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que je ne bois pas et ce que tous mes enfants boivent. Oui. Celui de mon seul fils. En fait, je le prépare dans ses seaux de 5 gallons. Donc ça n'a pas vraiment bien fonctionné en ce sens. Mais je sais que ce que je dois faire est bon pour moi. Soit dit en passant, la Bible ne condamne pas l'alcool. La Bible condamne ivresse. La Bible précise telle que l'ivresse est un péché. La Bible est explicite sur l'ivresse est un péché. Le problème est donc l'ivresse. Au fait, quand vous êtes en Israël, j'ai vécu en Israël pendant un an. Les gens là-bas, ils boivent du vin avec leur repas. Je pourrais être honnête avec vous, je n'ai jamais vu d'ivrogne en Israël. Si vous êtes juif et que vous êtes ivre là-bas, voulez-vous être ivre et entrer dans le section arabe? Je veux juste te dire que si tu es ivre là-bas, tu pourrais être mort. Et machine translated by Google. 27. Donc les gens ne le font pas. Ils boivent avec modération. Donc, il faut être prudent. La Bible ne dit pas abstinence. Je m'abstiens pour d'autres raisons, mais pas parce que la Bible l'ordonne. Que vous devez travailler avec ça. Maintenant, ce type lors de la dernière heure de cours, il vient d'une église où l'église prend un stand où ils ne boivent pas d'alcool dans l'église. Doit-il retourner dans cette église et dites, mon professeur dit que Jésus a bu du vin. Est-ce vraiment moche? Quand tu es dans un contexte comme ça, encore une fois, je n'en ferai pas toute une histoire. Si vous êtes dans une communauté où ils ne boivent pas et que c'est très important pour eux, je suppose que ce que je dis, c'est, détendez-vous. Vous n'êtes pas obligé d'y aller en tant que grand, vous allez les éclairer sur le type d'alcool. Deux choses. J'étais dans une église, pasteur d'une église pendant un moment dans la région du Tennessee, où ils divisaient l'église à cause de l'alcool. Ils ont fait exploser l'église à cause de l'alcool. J'entre, sachant que l'église est divisée à cause de l'alcool, je suis arrivé comme prédicateur, j'ai quitté le premier jour. je ne l'oublierai jamais, le conseil des anciens était tout aligné et je vais leur serrer la main et chacun de ses aînés mâche, fume ou crache. Devinez ce que ces gars avez-vous fait pour gagner votre vie? Ils cultivaient le tabac. C'est dans le sud. Ils cultivaient du tabac et ce sont tous des producteurs de tabac. Ils ont simplement divisé l'église à cause de l'alcool. Maintenant, je viens du nord. Est-ce que cela m'a dérangé l'esprit? J'ai pensé, vous divisez l'église à cause de l'alcool, qui est ok, et pourtant vous cultivez tous du tabac, ce qui tue tout le monde. Donc ce que je dis, c'est que je suis monté là-haut et que j'ai fait mon prochain sermon sur les méfaits de le tabac. Comprenez-vous pourquoi ils ont fait ça à cause de l'alcool? Ces gars étaient une bande de brillants lunaires là-haut. Ils faisaient briller la lune dans les radiateurs et nous étions intoxiqués au plomb à cause de ces stupides radiateurs. Donc, vous savez ce que je dis. Il y avait des problèmes majeurs à l'époque de la prohibition. Ces gars sont passés de l'autre côté. Donc ce que je dis, c'est que tu dois t'intégrer, je suppose que c'est ce que je dis, encore une fois. Majeur sur les majeurs, mineur sur les mineurs. Il y a certaines choses qui ne le sont tout simplement pas assez important pour se battre. Donc si je vais dans une église où tout le monde est abstentionniste, type personne, je m'abstiens juste. Si je vais dans une église où tout le monde boit, j'essaie juste d'expliquer pourquoi je ne bois pas, mais si je suis dans un contexte où cela serait offensant pour eux, je machine translated by Google.
28. Fair. J E Boyer I tout C E K J A I A Boyer. Don C E K J E dis say, pense just à la camaraderie.
Et la communauté, car c'est plus important que ce que vous buvez. Je suppose que c'est ce que je suis en disant. Ah. Nombre 6 et la bénédiction sacerdotale 70:1-9-7-4-31. Le morceau le plus ancien des Écritures est le chapitre 6 des Nombres. Laissez-moi simplement vous raconter l'histoire. Je crois que je l'ai déjà dit. Vous souvenez-vous de la théorie GED? Les critiques disent que Moïse. Je n'ai pas écrit ça. Le Pentateuque a été écrit par un écrivain qui aimait le nom de Jéhovah, le écrivain qui privilégiait le nom d'Élohim, le Deutéronome a été écrit en quelque sorte à part par Josias, à l'époque de Josias, et alors le document P était le plus avancé. Et c'était le document sacerdotal à cause de toute la complexité des règlements sacerdotaux. Le code sacerdotal a été écrit le document P environ 550 avant J.C. à 450 avant J.C. après l'exil à Babylone. Maintenant, permettez-moi de vous lire la bénédiction sacerdotale tirée des Nombres. Le Seigneur a dit à Moïse, dit à Aaron et à ses fils, voici comment toi, Aaron, en tant que prêtre, tu dois bénir le Israélite, dis-leur, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Le Seigneur fait face à brille sur toi et soit miséricordieux envers toi. Le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne paix. Combien d'entre vous ont entendu un pasteur dire, le Seigneur vous bénisse et vous garde? Faire sa grimace. Si vous allez à l'église de Park Street, le docteur Gordon Hilgeburger terminera par cette bénédiction sacerdotale à chaque service religieux. C'est une bénédiction sacerdotale. Si vous êtes Jérusalem, vous êtes le mont des Oliviers, il y a une vallée qui descend ici, appelée la vallée du Cédron, entre le mont des Oliviers et Jérusalem. Ici, cela descend jusqu'à la mer Morte. Il y a une autre vallée qui descend par ici et traverse ici. Ils construisaient un hôtel juste ici et la machine à creuser, tout cela. Soudain, il heurte quelque chose. C'était un tombeau. Cette tombe s'était effondrée et je pense avoir parlé. Jean ai parlé plus tôt, le tombeau s'était effondré à cause d'un tremblement de terre. Quand ils sont arrivés là-bas, tout des objets, dont une femme avec une amulette en argent autour du cou, y ont été trouvés. La femme était toujours en place avec une amulette autour du cou. Il leur en a fallu, on m'a dit, 3 des années pour dérouler cette amulette en argent. En fait, quand vous parlez des tombeaux de Jérusalem, vous parlez d'un seul homme, et ce nom est Gabriel Barquet. J'ai dû étudier avec lui à son retour. Machine translated by Google. 29. Dans les années 70, c'était dans les années 70, et Gabi Barquet était mon professeur. 1. L'une des choses vraiment intéressantes pour moi, c'est que le semestre dernier, nous avons eu un étudiant de Gordon du côté du. D'une manière ou d'une autre, vous pouvez étudier en Israël sur le Mont Sion au Collège universitaire de Jérusalem. Un de nos étudiants est revenu et a dit, vous savez, j'ai retiré l'archéologie de Jérusalem. Docteur Gabi Barquet, et j'ai pensé, non, il ne peut pas encore être en vie. Il était vieux quand j'étais là-bas. Dans les années 70. Ce type est tellement vieux. Il fume toujours un paquet de cigarettes par jour. Je ne sais comment il fait. Quoi qu'il en soit, c'est l'archéologue réside de Jérusalem. J'ai été avec lui quand il entre dans un tombeau, se dirige vers le mur du tombeau et touche le ciseau y marque et peut vous dire dans un délai de 100 ans à partir de quand ce ciseau marque a été fait. Ce type est un juif extrêmement brillant qui a étudié les tombes Jérusalem toute sa vie. Il est le plus grand expert mondial des tombes de Jérusalem. Il a été en eux tout, et ils l'ont amené à trouver ceci. Il finit par publier ceci. Il s'agit du premier morceau de l'écriture. De quand date-t-il? Il date de 600 700 avant J.C. Pourquoi est-ce important? Parce que les critiques disaient que le document sacerdotal P vient de 450 avant J.C. Nous avons en fait un morceau de l'écriture autour du cou d'une femme. De 600 à 700 avenue. Il s'agit du premier morceau de la Bible jamais découvert. OMS. Vivez quand cela tournait autour du cou de cette dame. Réalisez-vous que le roi Ézéchia. Et ce que quelqu'un a déjà entendu parler d'Ézéchia. Ézéchia vivait quand cela circulait. Le cou de cette dame. Ézéchia dans la Bible. C'est donc vraiment une formidable trouvaille. J'étais tellement heureux, pour être honnête avec vous, pour le docteur Barquet d'avoir pu participer à cela. Cela arrive. Tiré du livre des nombres. Numéro 6, la bénédiction sacerdotale est le premier élément de écriture jamais trouvé. Un bécycle littéraire des nombres 74, 3, 2, 7, 6, 10. Le livre des nombres suit un cycle, et ces cycles se répètent encore et encore. Encore une fois, et voici à quoi ressemble le cycle, tout d'abord, ils ont un problème. Que est-ce que c'est? Leur problème? Leur problème c'est qu'ils sont dans le désert, et quand tu es dans le désert, il n'y a pas quoi. Il n'y a rien, pour ainsi dire. Quand tu es dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas, vous avez tous ces problèmes. Il y a donc des difficultés. Le désert et les gens seront confrontés à un problème. Alors, que font les gens? Les gens. Machine translated by Google.
30. S.E. Plaindra. E.T.K. Descent ILS. ILS Descent, Maïs, nous sommes Ryan's être de retour en Égypte.
Où nous mangions tous ces poireaux et melons et nous avions toute cette nourriture et cette eau, le Nil. Rivière. Alors les gens se plaignent. Alors que se passe-t-il? Dieu répond. Et ce que Dieu se met en colère? Au peuple juif dans le désert. Oui, vous l'avez vu. Il se met en colère et il mentionne Dieu. Colère comme des milliards de fois, et ainsi Dieu répond. Bien souvent, Dieu se met en colère contre Israélite, et alors qui intervient après que Dieu se soit mis en colère? Moïse intervient et dit, Dieu ne le fait pas. Allez grec doucement avec eux, et Moïse intervient et Moïse fait alors la médiation. Alors que se passe-t-il? C'est plutôt intéressant. Dieu cède-t-il? Il est en colère contre Israël. il est. Je vais les détruire ou faire quelque chose du feu ou des serpents ou autre et alors Dieu cède. Ensuite, généralement, à la fin de l'histoire, il y a un résumé qui résume le histoire. C'est un nombre minicycle nombre 11, 1, 2, 76, 1, 1, 7, 8, 11. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est faire un minicycle, et je vais vous montrer tout ce cycle dans deux vers. C'est pourquoi on l'appelle un minicycle, il ne contient que deux couplets, mais il contient tout le reste. Faire du vélo. Ensuite, nous examinerons un grand cycle. Nous ferons donc d'abord un petit cycle, puis nous ferons un grand. Faire du vélo. Cycle de deux versets pour ce modèle dans Numbers. Nombre, chapitre 11, versets 1 et 2. Deux versets, voici comment ça se passe. Nombre, chapitre 11, verset 1, maintenant, le peuple se plaignait de leurs difficultés devant le Seigneur. Alors les gens se sont plaints sur leurs difficultés. Quel est le problème? Le problème, ce sont les difficultés du désert. Parle. D'ailleurs, le désert est-il un endroit difficile à vivre? Tu ferais mieux d'y croire. Alors, les difficultés du désert, et alors les gens se plaignent. Maintenant, les gens se plaignaient de leurs difficultés dans le entendre le Seigneur. Alors, que espérez-vous qu'il se passe ensuite? Dieu répond. Alors, quand le Seigneur, en les entendant, sa colère s'éveilla. Alors le feu du Seigneur brûla parmi eux et a consumé une partie des abords du camp. Donc Dieu envoie ce feu, il consume les choses. Et les gens? Le feu brûle l'extérieur du camp. Maintenant, que se passe-t-il? Tout cela est contenu dans deux versets tout ce cycle. Alors quoi? Et ce qu'il nous reste? Nous devons le rassembler pour en faire une leçon à la fin, et donc il dit, le. Cet endroit s'appelait Abra parce que c'est là que le feu de l'Éternel s'est éteint. L'endroit était donc. Machine translated by Google. 31. Appelé Tabera. Le lieu doit son nom à cet incendie qui s'y est produit. Tout cela prend lieu en deux versets. Annonce. Nombre 11, 4, 2, 5 distinction entre plaintes et lamentations 78, 1, 2, 8, 7, 54. Maintenant, je veux passer à un grand cycle, et le grand cycle est celui que Moïse obtient. Impliqué personnellement ici. Cela a à voir avec la manne. Les gens en ont marre de la manne. Et ils veulent manger de la viande. Ils n'aiment pas la manne de Dieu et veulent manger de la viande. Donc, ils viennent voir Moïse pour se plaindre de cela. Maintenant, avant de faire cela, je veux configurer cela. Les gens se plaignent, et que est-ce que c'est? La réponse de Dieu. Les gens se plaignent et Dieu répond par colère et jugement. Mais, que se passe-t-il lorsque Moïse se plaint? Quand Moïse lui-même se plaint, Dieu comprend il. La colère suscitée. Juge-t-il Moïse? Comment se fait-il que Moïse se plaigne de Dieu? L'aide-t-il? Je veux faire une distinction, c'est une distinction vraiment importante. Entre plainte et lamentation. Je veux faire une distinction entre ces deux mots. Plainte et lamentation. Les mots sont exactement les mêmes. Ce sont tous deux des plaintes à Dieu. Mais le sens est totalement différent, et c'est pourquoi je pense à ce qui se passe pourquoi Moïse est aidé et Israël est jugé, c'est à cause de cette distinction entre lamentation et plainte. Permettez-moi de prendre ma femme comme exemple. Je suis marié depuis je disais 36 ans. Mais je dois faire la soustraction dans ma tête, et il y en a trop ici mais plus de 36 années. Nous sommes donc mariés depuis longtemps. Est-ce que ma femme m'aime? La réponse est, après 36 ans, tu ferais mieux d'y croire. Je veux dire, elle a traversé des moments difficiles avec moi, mais c'est la plupart du temps, j'ai été mince. Et donc, oui, je sais qu'elle m'aime. Nous avions environ la trentaine. Elle avait probablement 35 ou 36 ans. Ma femme est une personne très introvertie, très calme. Une personne très sociale mais très calme. Je n'ai jamais entendu quand mes enfants faisaient toutes sortes de... des trucs de fou, je n'ai jamais entendu ma femme crier. Ce n'est pas une crieuse. Elle ne crie jamais après mes enfants. Elle est calme et introvertie, tout comme moi lorsque je suis en dehors des cours. Un jour, je l'ai fait. Quelque chose de vraiment stupide, alors elle a commencé à me crier dessus, et c'était vraiment fort. Je ne l'avais jamais vue élever la voix comme ça, et elle a commencé à me crier dessus. À cette époque, nous vivions dans une maison qui avez-vous déjà vécu dans une ville? Machine translated by Google. 32. Où se trouvent les maisons à côté de vous? Vous pouvez tendre la main par la fenêtre et vous pouvez toucher la maison d'à côté, il y a un trottoir entre vos maisons et c'est tout. Et donc on avait des maisons des deux côtés, une fenêtre c'est l'été et c'est tout ouvert, et elle commence. Crier avec cette voix, c'est comme sainte vache. Je lui dis, Annette, tais-toi, tais-toi. Vers le bas. Je veux dire, ils vont appeler les flics. Et pendant que j'essayais de la calmer, devine. Que s'est-il passé? Au lieu de se calmer, elle devient plus bruyante. Je ne savais même pas qu'elle. La voix pouvait être si forte. Je ne l'avais jamais entendue faire ça auparavant. Alors j'essaie de la calmer. En disant, les gens vont appeler les flics contre nous. Ils vont penser. Quelque chose ne va pas ici, alors tais-toi. Elle ne le ferait pas. Elle n'arrêtait pas de crier. Moi et en me criant dessus. Est-ce qu'elle m'a crié dessus parce qu'elle m'aimait ou parce qu'elle était tellement en colère contre moi? Laisse-moi juste faire deux cris différents, d'accord? Un cri et, tu es tellement abruti. Je ne te laisserai jamais faire, tu ne devrais plus jamais faire ça. C'était la chose la plus stupide. Je n'arrive pas à te croire. Et puis elle dit, je sors d'ici. Je ne veux plus jamais te revoir. J'en ai assez de toi. Je ne veux plus jamais te revoir. Je suis parti. De quel genre de disparition s'agit-il? Je suis parti. Je n'en peux plus. Je sors d'ici. D'accord, est-ce un type? Était? C'est ce que faisait ma femme quand elle me criait dessus. Non. Ce qu'elle faisait, c'était dire, Ted, tu as encore recommencé. Je ne te permettrai pas ça. Encore. Tu es un homme meilleur que ça. J'exige mieux de toi. Et je ne te laisserai pas. Recommence parce que c'était totalement irrespectueux et totalement déplacé, et tu es mieux que ça. Et je crierai contre toi jusqu'à ce que tu deviennes cet homme meilleur que toi. Aurais dû être. Maintenant, question, est-ce une façon totalement différente de procéder? Les mots peuvent en fait être très similaires, mais dans un cas, elle me crie dessus, m'attrape sur moi en disant, fais mieux. Je t'aime. Tu peux faire mieux. Celui qui arrive à un personne, l'autre est en train de renflouer. Voyez-vous la différence? Quand Israël se plaint, que fait-il? Vont-ils après Dieu ou sont-ils renfloués? Ils s'en vont. Quand Moïse s'approchera de Dieu, Moïse va-t-il entrer le visage de Dieu? Oui, il le fera. Je vais vous en lire un peu ici. Moïse se retrouvera face à Dieu. Il ne s'en remet pas à Dieu, il s'en prend à Dieu et dit, Dieu, ce n'est pas bien. Machine translated by Google. 33. Vous devez faire mieux. Il y a la différence entre se plaindre et se plaindre de quoi je parle vraiment. Il s'agit du livre des psaumes. Vous connaissez le livre des psaumes parce que les psaumes sont des psaumes de louange à Dieu, n'est-ce pas? Oh, rends grâce au Seigneur car il est bon, pour son risde. L'amour fidèle dure pour toujours. Et nous chantons toutes les merveilleuses louanges des psaumes. Laissez-moi. Essayez, vous avez appris le psaume 23, n'est-ce pas? Mais avant Jésus, ont-ils chanté cela pendant un moment? 1000 ans. Oui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin?
À cause de mes gémissements.
Ou revenez au psaume 13 si vous n'aimez pas ça, jusqu'à quand, Seigneur?
Vas-tu m'oublier?
Pour toujours.
Imaginez, vous êtes dans une église et un mec se lève.
Commence sa prière ainsi, ô Seigneur, jusqu'à quand m'oublieras-tu pour toujours?
Combien de temps cela?
Toi, est-ce que ça se passerait vraiment bien?
Les anciens le tiraient à l'écart et lui disaient, vous.
Tu sais, tu comprends.
Dieu ne vous oublie pas.
Dieu sait tout.
Dieu aime.
Vous et a un merveilleux projet pour votre vie.
Que dit le psalmiste?
Le psalmiste
dit, jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu?
Pour toujours.
Eh bien, cela se trouve dans le livre des psaumes.
Tu en veux un vraiment mauvais.
La plupart.
Les lamentations, vous avez raison, la plupart des lamentations se terminent sur une note positive.
Quelqu'un était sûr.
Mon cas l'année dernière en disant, toutes les lamentations se transforment en positif.
Non, non.
Tu ne le fais pas.
Je connais le psaume 88, je ne devrais même pas vous dire ça les gars, psaume 88, il n'y a qu'un seul psaume.
Dans l'ensemble c'est une lamentation et devinez comment ça se termine.
La plupart d'entre eux prennent l'air haut.
Fin.
Le psaume 88 apparaît-il?
Non, cela se termine dans l'obscurité.
Et donc ce que je suggère à
vous êtes c'est très intéressant psaume 88.
Maintenant, où vas-tu à partir d'ici?
Il y a une incapacité des chrétiens à verbaliser.
Complainte.
En d'autres termes, en tant que chrétien, tout doit bien se passer.
Dieu contrôle
tout.
Dieu a un plan merveilleux pour votre vie.
Dieu t'aime et a un merveilleux.
Planifiez votre vie.
Tout doit bien se passer.
En tant que chrétien, vous devriez toujours avoir un
souriez sur votre visage parce que Dieu est tellement merveilleux.
Question, Moïse a-t-il toujours eu
un sourire sur son visage?
Le psalmiste avait-il toujours le sourire aux lèvres?
Ce que je suis.
Ce que je suggère, c'est de faire attention aux gens qui planent tout le temps.
Faites également attention aux
des gens qui sont tout le temps faibles.
La vie est elle vécue avec des hauts et des bas.
Sois prudent.
Machine translated by Google.
34.
À propos de ce truc chrétien, tout doit être cool parce que je vais vous demander, Moïse est-il un
homme de Dieu?
Écoutez Moïse alors qu'il s'adresse à Dieu, Moïse entendit les lamentations du peuple, parce que
il n'y avait pas de viande à manger.
Ainsi Moïse c'est le chapitre 11 des Nombres, verset 10, chacun a
l'entrée de sa maison, et l'Éternel se mit extrêmement en colère, et Moïse fut
troublé.
Et lui, Moïse demanda au Seigneur, pourquoi as-tu causé ce problème à ton
serviteur?
Est-ce une question rhétorique ou est-ce une vraie question?
Pourquoi as-tu amené
ce problème sur votre serviteur?
Que ai-je fait pour vous déplaire de mettre le fardeau de ces
des gens sur moi?
Et je conçus ces gens.
Et ce que je leur ai donné naissance.
Moïse dit, je
ne leur a pas donné naissance.
Tu as mis tous ces gens sur moi, je dois porter tous ces gens.
Des gens sur mon dos, mon Dieu.
Je n'ai pas donné naissance à ces gens.
Je n'ai pas conçu tout ça.
Personne.
Quelle est l'implication?
Qui a conçu ces gens?
Qui leur a donné naissance?
Dieu l'a fait.
Alors Moïse utilise ces questions rhétoriques pour faire quoi?
Accuser Dieu.
Laissez-moi d'abord terminer ceci, puis nous y reviendrons.
Pourquoi me dis-tu de
porte-les dans mes bras comme une infirmière porte un bébé vers une terre que tu as promise sous serment à leur
aïeux?
Où puis-je trouver de la viande pour tous ces gens?
Ils n'arrêtent pas de me pleurer.
Donne-nous
de la viande à manger.
Je ne peux pas porter ces gens tout seul.
Le fardeau est trop lourd pour moi.
Et
Moïse s'adressant à Dieu d'une manière très, très forte.
À propos, est-ce Moïse, l'homme de
Dieu?
Est-il l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament?
Remarquez comment il arrive. Dieu d'une manière très forte. Ce que je dis, c'est que ces choses sont écrites pour nous. Il est se lamentant et Dieu s'occupe de lui. À eux. Discipliner la colère. 87, 5591, 52. Maintenant, êtes-vous censé discipliner vos enfants lorsque vous êtes en colère? Combien? On a dit à certains d'entre vous, vous ne disciplinez jamais vos enfants lorsque vous êtes en colère. Je demande. Toi, combien de tes parents t'ont sanctionné alors qu'il était en colère? Est-ce que Dieu discipliner ses enfants quand il est en colère? Au fait, la colère est un problème. Aussi, beaucoup de colère peut conduire à la violence et à de mauvaises choses. Beaucoup de gars que je connais en prison sont en prison parce que dans un accès de colère, le gars a volé sa petite amie et il est sorti et a pris une arme et l'a tué parce qu'il était tellement en colère et jaloux. La colère peut donc être très mauvaise. Machine translated by Google. 35. Mais, d'un autre côté, avons-nous, vivant dans la culture moderne, en quelque sorte castré la colère de notre être? La colère est-elle toujours appropriée? Dieu se met-il en colère? Nous ne pouvons pas le gérer comme les chrétiens. Nous aimons le Dieu d'amour. Dieu est amour, paix. Il aime tout le monde. Il a un merveilleux plan pour votre vie. Vous avez lu Numbers. Est-ce que Dieu se fait pirater? Parfois. Oui, il le fait. Il faut donc faire très attention aux choses. Dieu discipline les gens quand il est en colère. Toute colère est-elle mauvaise? Le Nouveau Testament dit, soyez en colère et, quoi? Ne péchez pas. Soyez en colère et ne péchez pas, quand on voit l'injustice, devrait-il y avoir de la colère? Quand tu vois injustice, il devrait y avoir de la colère. Soyez en colère et ne péchez pas. En d'autres termes, il y a un moment pour être en colère et un moment pour ne pas le faire. Moïse utilise des questions rhétoriques, donc, pas comme des questions rhétoriques pour poser des questions, sa rhétorique. Les questions sont son approche agressive envers Dieu. Il réprimande Dieu. Les questions rhétoriques sont souvent utilisées par les prophètes pour réprimander le peuple. Dans le cas de Moïse ici, il utilise le des questions rhétoriques comme un reproche à Dieu. Maintenant, en voici un autre, celui-ci est fort qui est. Est-il possible pour un chrétien d'aspirer à la mort? C'est Moïse, l'homme de Dieu, dit-il. Mon Dieu, si c'est ainsi que tu veux me traiter, mets-moi à mort tout de suite. Au fait, fais. Je recommande cette prière aux gens. Non, vous parlez avec Dieu, quel est le problème? Là. Dieu peut mettre les gens à mort. Moïse a-t-il une relation phénoménale avec Dieu? Oui, il le fait. Moïse était-il si déprimé qu'il dit, Dieu, si tu me fais porter tout ces gens, je n'en peux plus. Si c'est comme ça que tu veux me traiter, tue-moi. Juste. Faites-moi sortir tout de suite. Maintenant, que fait Dieu? Dieu réprimande t-il Moïse? Non, Dieu aide Moïse, et Dieu dit à Moïse, je vais prendre l'esprit sur toi, Moïse, amène les anciens et les dirigeants d'Israël ensemble, je vais vous enlever l'esprit, Moïse, et je vais mettez-le sur ces 70 personnes. Moïse transportait-il une charge de 70 personnes? Pas étonnant pourquoi le gars était en panne. Il portait cette charge, c'est trop lourd pour lui. Dieu répartit le fardeau de Moïse sur 70 dirigeants d'Israël. Ainsi l'esprit de Moïse est propagé. C'est une belle chose quand Dieu s'occupe de Moïse. Moïse se présente face à Dieu, mais Machine translated by Google. 36. C'est le genre de chose où il dit, Dieu, fais quelque chose. Dieu fait quelque chose et prend l'esprit et le met sur ces 70 personnes. C'est donc une chose vraiment intéressante. Maintenant, au prochain cours, nous allons traiter des nombres, chapitre 12. Chapitre des nombres. 12 répondra à cette question, que pense Dieu du mariage interracial? Maintenant c'est. Ce n'est pas une grande question dans notre culture d'aujourd'hui, mais il existe des données bibliques à ce sujet. Nous voulons. Regarde ça la prochaine fois. Il s'agit du docteur Ted Hildebrandt et de son histoire, de sa littérature et de son Ancien Testament. Cours de théologie, leçon numéro 14 sur les sacrifices et les fêtes du Lévitique et du début de la discussion sur le livre des nombres. Transcrit par Sarah Woodberry Brut édité par Ted Hildebrandt 2.